Le 12 mars 1622 étaient canonisés deux jésuites originaires du Pays basque, Ignace de Loyola et Saint François Xavier, canonisés le 12 mars 1622 par le pape Grégoire XV, qui canonisa en même temps Thérèse d'Avila, Saint Isidore le Laboureur et Saint Philippe Néri. Ce quatrième centenaire de la canonisation de Saint François Xavier et de Saint Ignace de Loyola s'inscrit dans le cadre de l'année ignatienne qui s'achèvera le 31 juillet prochain, et qui commémore le 500e anniversaire de la conversion de Saint Ignace de Loyola. Dans nos archives, nous avons retrouvé cette émission consacrée à Saint François Xavier, une émission réalisée en 2007 par Mickaël Eramouspé.
De la Navarre à l'Asie, sur les pas de Saint François Xavier. À la découverte de la dimension universelle.
Nous accueillons Mickaël Eramouspé.
Notre François, Frances, né au château de Javier en Navarre le 7 avril 1506. Sa famille est tout à fait de chez nous, puisque sa mère est du Bastan, exactement de Aspilcueta, c'est en descendant du col d'Ochondo, c'est le premier village à droite, juste en face du carrefour qui mène également au col d'Ispegui. Son père, ou plutôt sa famille paternelle, sont les Diacho, originaires de la région de Saint-Jean-Pied-de-Port, où leur maison d'origine semblerait être la maison Lascorregna. D'ailleurs, à Saint-Jean-Pied-de-Port, lorsque vous êtes en face de l'église, que vous avez passé juste la place du marché, que vous êtes en face de l'église, vous verrez à droite une petite indication qui dit « Ici vécurent les aïeux de Saint-François Xavier ». Donc une famille bien navarraise, navarre de la 7e Merindad ou bien du Bastan. Et le père de Saint-François Xavier n'est pas n'importe qui, puisque ce n'est autre que le ministre des Finances du roi de Navarre. Alors, en quelques mots, il est bon de dire, de rappeler l'histoire de ce royaume de Navarre. Je crois que c'est pratiquement le plus petit royaume d'Europe à cette époque-là, mais ce n'est pas le moins prestigieux. Rappelons que les prémices de la naissance du royaume de Navarre, il faut les trouver vers 778 à la fameuse bataille de Roncevaux. Rappelons à cette époque-là que l'Empire romain d'Occident a disparu et que nous avons au nord donc une tentative pour refonder cet empire-là avec Charlemagne, qui est le roi des Francs à cette époque, et qui veut, dont le rêve est de reconstituer cet Empire romain d'Occident. Oui, mais voilà, au sud, à partir de 622-632, eh bien, un nouvel empire est créé, je dirais. C'est la fameuse expansion musulmane qui va propulser les Arabes d'Arabie à travers tout le bassin méditerranéen, réduisant l'Empire romain d'Orient, c'est-à-dire l'Empire byzantin, à un tout petit territoire autour de Byzance. Ensuite, ils vont conquérir la Perse jusqu'à l'Indus, puis vers l'Occident, ils vont prendre toute l'Afrique du Nord et la péninsule ibérique jusqu'à nos montagnes, jusqu'aux Pyrénées. Alors, Charlemagne donc a un concurrent sérieux et il veut donc, je ne sais pas moi, repousser ou s'allier avec les dynasties musulmanes qui sont implantées dans la péninsule ibérique, mais son dessein, son projet étant, bien entendu, de les repousser et de devenir le nouvel empereur d'Occident, ce qu'il va en partie réussir, puisque en Noël 800, il va être couronné empereur par le pape, donc à Rome. Oui, mais voilà, 778, Charlemagne se fait battre par les Basques, dans cette fameuse bataille de Roncevaux. Autrement dit, les populations pyrénéennes, on va les appeler comme ça pour le moment, refusent à la fois la tutelle du nord et du sud. Et nous avons là un embryon d'organisation politique, et qui devait être certainement celle des vallées, et qui s'allient, qui se mettent ensemble pour fonder petit à petit un royaume, c'est-à-dire ils choisissent parmi un chef qui va être le roi, et ce premier royaume-là va s'appeler le royaume de Navarre. Un peu plus à l'ouest également, le royaume des Asturies, ce qui va donc constituer déjà les premiers royaumes chrétiens qui vont avoir une importance considérable, puisque ce sont des royaumes qui vont accueillir d'une part toute l'expansion européenne, surtout à partir du Xe siècle, et qui vont servir de tête de pont, on va dire, pour la fameuse Reconquista qui va durer jusqu'en 1492. Un royaume de Navarre prestigieux également, puisqu'en 1212, c'est Sancho Azcara qui va fédérer les armées chrétiennes et qui va battre à Las Navas de Tolosa, du côté de l'Andalousie, les troupes du sultan Miramolin. Et cette bataille a une importance également considérable, et là, c'est la Navarre va en retirer une gloire très 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 importante. Mais malheureusement, le sens politique de Sancho Azcara étant très limité, la Navarre ne pourra pas consolider son leadership, on va dire, sur les royaumes chrétiens de l'époque. Alors, c'est dire que le royaume de Navarre en 1506, à la date de naissance de François Xavier, est un royaume prestigieux, quoique très affaibli par surtout des luttes intestines, et aussi parce que son voisin, la Castille, est en train de devenir un royaume très très puissant et qui voudrait bien, à son tour, fédérer, si ce n'est annexer, tous les royaumes de la péninsule ibérique.
Nous voici donc en 1506, où la Navarre est encore un royaume indépendant, et dont le roi est Jean III d'Albret. D'Albret, c'est-à-dire en même temps, ils sont vicomtes de Béarn. Et la Navarre, donc, va subir à ce moment-là un drame, c'est l'invasion par la Castille de la Navarre. Toutes les forteresses, dont le château de Ravière, sont démantelées, les terres sont confisquées, et le père de François meurt de chagrin en 1515. Et François, donc à peine 10 ans, lorsqu'il voit les soldats castillans raser les murs et les tours de la haute demeure, donc seigneuriale, cette fameuse maison familiale. Et les deux frères de Javier, donc de Saint-François-Xavier, vont rallier les troupes donc de Navarraise, avec l'espoir de reconquérir le royaume. Nous sommes en 1521, et ils attaquent Pampelune, qui est entre les mains des Castillans, et la ville tombe, mais dans la ville, et c'est important de le signaler, il y a allié aux Castillans un certain Inigo de Loyola, de la maison Loyola de Azpeitia, qui est blessé. Il est blessé par un boulet de canon et la citadelle capitule, et Inigo est donc reconduit au château de Loyola par des soldats français d'ailleurs. Et on retrouvera bientôt notre Inigo ou Iñaki de Loyola, parce que il aura, je crois, une très grande importance dans la rencontre avec François Xavier. Cela dit, l'histoire de la reconquête de Pampelune n'est qu'un épisode très éphémère, puisque la Navarre sera définitivement annexée au royaume de Castille, sauf la partie nord, c'est-à-dire du versant nord, que les Castillans vont abandonner et qui va rester sous la tutelle du roi Jean III d'Albret, donc avec les rois légitimes de Navarre. Donc la jeunesse de François est triste. Il a perdu son père, ses deux frères aînés sont en prison, ils ont perdu la guerre, hein. Et donc il reste avec sa mère, voilà. Il reste avec sa mère, mais seulement il ne pourra pas, bien sûr, rester longtemps, puisqu'à 19 ans, il faut qu'il fasse un choix. Sa carrière, la carrière qu'il espérait, c'est-à-dire en clair prendre la suite de son père, faire une carrière diplomatique ou bien auprès du roi de Navarre, est maintenant finie, et il n'est pas question pour lui de s'allier de nouveau avec les Espagnols. Donc, il pense à faire du droit, il pense à devenir prêtre, ou ecclésiastique, on va dire plutôt cela, et il décide d'aller donc à Paris. Alors, à l'Université de Paris, qui est une université prestigieuse, il y en a plusieurs, bien sûr, en Europe. Il y a Montpellier, plutôt pour la médecine, il y a Salamanque, bon, on pourrait en citer bien d'autres, mais Paris a déjà une très très grande réputation. Donc, le voilà à Paris, il est parti pour 13 ou 15 ans d'études, pour avoir le fructueux diplôme de docteur en théologie. Il arrive donc à Paris, après avoir dit au revoir à sa mère qui ne reverra plus, et son pays qui ne reverra plus non plus, même si certains pensent qu'il est repassé par la Navarre en allant à Lisbonne un peu plus tard. Le voilà donc à Paris, qui est à ce moment-là une véritable capitale. Bon. C'est l'université avec ses 60 collèges, l'abbaye célèbre de Sainte-Geneviève, et puis François découvre également une vie étudiante extrêmement, je veux dire, mouvementée, comme maintenant d'ailleurs. Surtout qu'à ce moment-là, à Paris, eh bien, les thèses de Luther, les écrits de Calvin commencent à circuler sous le manteau. Donc une effervescence intellectuelle énorme, et il s'installe donc au collège Sainte-Barbe. Le collège à cette époque-là, ça n'a rien à voir avec un collège d'aujourd'hui, c'est juste une maison, si vous voulez, qui rassemble des étudiants. Bon, collégial, ça veut dire donc être ensemble. Donc, comme tout étudiant, ben, il partage sa chambre, avec deux autres personnes. Un qui est, on dirait aujourd'hui, de façon plus triviale, on dirait un bringer, c'est-à-dire quelqu'un qui n'arrête pas de faire la fête, et qui pense à tout sauf à faire ses études, et qui va mourir assez vite, des suites donc d'une vie qui n'était pas très équilibrée. Et puis, un savoyard, Pierre Fabre, timide, mais studieux. Il est très 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 studieux même, très sérieux on dirait maintenant, et il va se lier d'amitié assez facilement avec Pierre Fabre. Donc assez vite ils sont reçus à la licence en art, ils continuent, donc ils peuvent choisir entre le droit, la médecine ou la théologie, et François bien sûr choisit la théologie. Sa carrière étant, il pense qu'une fois docteur, il reviendra donc à Pampelune, il va bénéficier de plantureux bénéfices, et sa carrière est toute tracée. Alors, pour gagner un peu d'argent, comme tout étudiant, il va avoir une place de régent au collège de Beauvais, c'est-à-dire un régent, c'est comme un instituteur, si vous voulez, ou un répétiteur. Et il va donc gagner quelques argent. Et ma foi, ça va mieux maintenant, il s'abandonne à une vie insouciante et facile de l'étudiant, voilà. Et un jour, comme je vous disais tout à l'heure, leur ami qui n'arrêtait pas de faire la fête était décédé, il y avait une place dans leur chambre, et voilà qu'un homme se présente à eux, il a 15 ans de plus qu'eux, et il s'appelle Inigo de Loyola. Et Inigo de Loyola, alors, j'en ai parlé tout à l'heure, qui était une famille ennemie des Javier, de la famille de François, arrive donc dans cette chambre. Alors, imaginez un jour, dans la même chambre, Ornaldo Otegi et puis José María Aznar, qui doivent partager la même chambre. Bon, c'est à peu près ce qui s'est passé, alors qu'ils sont complètement ennemis.
De la Navarre à l'Asie, sur les pas de Saint François Xavier.
La rencontre entre François et Ignace va être décisive. Ce n'est pas une rencontre facile. Tout sépare les deux personnages, de par leur histoire d'abord, mais aussi de par leur caractère et leur personnalité. François est quelqu'un de brillant, et tout lui réussit, il est sportif, il est en bonne santé. Il a des ambitions tout à fait particulières. Ignace a 15 années de plus que lui et beaucoup plus mûr que lui. Alors, qu'est-ce qu'ils ont bien pu se dire ? Ignace n'a pas commenté cette rencontre. Il a simplement dit dans ses mémoires que la pâte la plus dure à manier a été celle qu'il a eue à manier avec François. Mais en tout cas, on pourrait imaginer un peu ce qu'ils ont pu se dire. Et on sait en tout cas que ce qui a fait se convertir Ignace, c'est la fameuse phrase « À quoi sert à l'homme de gagner l'univers s'il vient à perdre son âme ?» À perdre son âme, qu'est-ce que ça voudrait dire ? En d'autres termes, on pourrait dire que le vrai bonheur ne consiste peut-être pas à être puissant, quelqu'un qui a beaucoup de succès, à qui tout réussit. Et comme disait Coluche, c'est sûr qu'il vaut mieux être riche et en bonne santé que pauvre et en mauvaise santé, c'est sûr. Mais c'est sûr aussi que dans le dialogue entre Ignace et François, il y a quelque chose qui va se passer. Alors, qu'est-ce qu'on peut imaginer de leur dialogue ? Bon, Ignace aurait pu dire à François, « Bon, tu construis ta vie sur tes mérites, c'est bien, mais tout ça, ce ne sont que des illusions. » Et François ne peut pas comprendre cette démarche, lui qui est dans une logique tout à fait différente. Et Ignace lui dit, « Tout te réussit, mais tu es inquiet. » Inquiet pourquoi ? Parce que tu n'es pas sûr de pouvoir conserver ce rang. Tu as peur de tout perdre, aurait pu dire Ignace à François. Tout le monde pense également qu'il fait du bien, que c'est quelqu'un de bien. Tout le monde cherche à ce qu'on dise de soi, quel chic type celui-là. Les gens recherchent les honneurs, la bonne réputation. Et François peut dire, mais oui, mais moi, mon objectif, c'est quand même de servir Dieu à la cathédrale de Pampelune. Belle carrière, pleine de bonne volonté. Mais Ignace aurait pu lui dire, eh bien, quel orgueil, et oui, parce que François, tu veux servir Dieu où tu le veux, comme tu le veux, quand tu le veux, mais c'est confortable, ça. Et là, maintenant, et ici, ce n'est pas le moment. Et je crois que ce qui a déconcerté François, c'est justement que Ignace le pousse à une véritable conversion. Il va le déstabiliser, probablement, mais il va le pousser à rencontrer véritablement Dieu, c'est-à-dire à tout laisser, à tout lui donner et à se laisser conduire par Dieu. Alors, bien sûr, à partir de ce moment-là, tous les plans de François s'écroulent. Et là, Ignace va le conduire à travers son expérience personnelle, puisqu'il a déjà expérimenté lui-même les exercices spirituels, et il va, je pense, convertir véritablement François. Et il y a récemment un disque qui est sorti, qui est de Pierre-Paul Versailles. Et Pierre-Paul Versailles, parmi les chants qu'il a enregistrés sur ce disque, a imaginé la prière de Ignace. Et il dit, voici Seigneur, voici ma liberté, voici ce que je suis, mon intelligence, voici ce que je suis, et tout ça, je te le donne. Je te le donne à toi, tout ça, c'est à toi, et tu en fais ce que tu veux. Et toi, tu me donnes ton amour et ta grâce, et avec tout ça, j'ai largement de quoi.
Harmig dydan gysia, Alors, Ignace a rencontré François, mais il a également rencontré d'autres personnes. Un Portugais, Simon Rodriguez, deux Castillans, Jacques Llanes et Alphonse Almeron, un Tolédan, Nicolas Bodavilla, et Pierre Fabre, l'ami, déjà l'ami de François, l'ami qui partageait la chambre de François. Et on les voit se rencontrer, ils se dévouent aux plus pauvres, ils discutent, mais qu'est-ce qu'on va faire? Ils cherchent. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Alors, on pourrait peut-être être prêtre, oui, puis après on ira à Jérusalem, et on va vivre dans la pauvreté, et on va convertir tous les infidèles. Et ils en sont là, et à ce moment-là, ils vont à Montmartre. En Montmartre, à l'époque, c'est dans la banlieue de Paris, c'est complètement différent. Et ils vont là-bas, c'est une banlieue rustique, des vignobles, des moulins, une grande abbaye bénédictine sur la colline, une chapelle. Et un peu plus loin, c'est là qu'on situe le martyr de Saint-Denis et de ses compagnons. Et dans la crypte consacrée aux martyrs, donc Pierre Fabre, qui a été déjà ordonné prêtre le 30 mai, donc célèbre la messe et au moment de la communion, chacun s'engage devant tous à vivre suivant la pauvreté évangélique et dans le célibat. Et à ce moment-là, il prononce un vœu, le vœu de pèlerinage à Jérusalem, mais aussi, c'est un peu vague encore, mais le vœu de se mettre à la disposition du pape, si jamais il n'arrive pas à aller à Jérusalem. Parce qu'il ne suffit pas à l'époque de prendre un billet sur une agence, dans une agence de voyage. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Alors ensuite, pendant l'été, ils font les fameux exercices spirituels et Ignace va en Espagne et donc ils prennent l'idée qu'ils ont, c'est de partir donc à Jérusalem. Ils se donnent rendez-vous à Venise. Quelques mois passent. Bon, on imagine, sans portable, sans SMS et sans Internet. Donc, les mois passent. Et ils se retrouvent finalement, enfin, à Venise. Mais là-bas, ce qui se passe, c'est qu'il n'y a pas de bateau pour Jérusalem. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, à Venise, ils vont se mettre au service des pauvres et des malades. Ils sont contents de se retrouver. Ils vont aussi à Rome pour demander l'autorisation au pape Paul III de faire le pèlerinage à Jérusalem. Et le pape est agréablement surpris, on va dire, du charisme et du dynamisme de ces jeunes-là. Et il a une petite idée derrière la tête. Il se dit, ces jeunes, il faudrait qu'ils se mettent au service de l'Église, parce que, rappelons-le, à cette époque-là, ce n'est absolument pas brillant pour l'Église catholique. Et finalement, le 24 juin, ils vont être ordonnés prêtres côte à côte, Ignace et François, Et ils font également vœux de pauvreté volontaire. Les voilà, on se retrouve de nouveau, on les retrouve de nouveau dans l'Italie, à Bologne. Alors Bologne, c'est important pour François, parce que son père avait fait ses études de droit dans cette ville. Et finalement, ils vont fonder véritablement la compagnie de Jésus, donc les jésuites. Ils vont le faire avec une obéissance au pape, en se mettant donc directement sous l'autorité du pape. Et le 24 septembre 1540, Paul III va signer la bulle, c'est-à-dire le décret, si vous voulez, qui établit dans l'Église la compagnie de Jésus. Et entre-temps, et ça sera pour la prochaine fois, donc François, qui était au départ prévu pour être le secrétaire d'Ignace, finalement va être envoyé aux Indes par Ignace. Et là commence également une autre aventure extraordinaire. La compagnie des Jésuites, la compagnie de Jésus, est créée. Et voici que nos jeunes hommes bien fougueux n'ont de cesse que de se mettre en action. Après bien des péripéties, voici que Ignace décide d'envoyer François aux Indes. Alors là, je crois qu'il faut bien se remettre dans le contexte de l'époque. Une vie de saint, ce n'est pas simplement une vie toute dévote et puis une vie toute, comment dire, hors du temps, mais dans un contexte bien particulier. Or, le contexte de l'époque, il est extraordinairement riche. Nous sommes en pleine époque des grandes découvertes. Quelques petits rappels. Je crois qu'il faut se mettre en tête la date de 1492. 1492, c'est à la fois ce qu'on appelle la découverte de l'Amérique par Christophe Colomb. On peut bien sûr épiloguer longtemps sur le mot découverte, mais c'est aussi dans la même année que Grenade, la dernière ville donc aux mains des musulmans dans la péninsule ibérique, est reprise. Alors, il faut ajouter également que nous sommes dans un contexte où les Portugais et les Espagnols entretiennent une rivalité très très importante. Les Portugais, eux, ont fait le choix d'aller à la découverte des Indes, puisqu'il s'agit de ça, en contournant l'Afrique. Alors, ils ont une méthode toute simple, c'est qu'ils lancent une expédition qui part longer les côtes africaines. Ils arrivent dans un endroit qui leur paraît convenable, ils y installent un comptoir, c'est-à-dire un endroit où, sans forcément conquérir des territoires, ils vont pouvoir être en contact avec les populations locales pour faire du commerce. Ils reviennent au Portugal et ensuite une expédition va un peu plus loin, etc., etc., jusqu'en 1498 où ils vont enfin atteindre les Indes. C'est Vasco de Gama donc qui va atteindre les Indes. Alors pourquoi pourquoi les Portugais veulent-ils tant atteindre les Indes, tout comme les Espagnols? Eh bien parce que les Indes, c'est le royaume des épices. C'est au-delà, bien sûr, en Asie, les épices, la soie, une route qui est absolument sous contrôle du monde musulman, arabo-musulman. C'est-à-dire que pour accéder aux Indes, on peut bien sûr acheter des épices en Europe à cette époque-là, mais il faut beaucoup, beaucoup d'intermédiaires. Le commerce est verrouillé complètement par les arabo-musulmans, ainsi que les vénitiens d'ailleurs. Et le but du jeu, eh bien, c'est d'aller directement chez le producteur pour lui acheter les épices et bien sûr pour faire des profits énormes. C'est bien le but du jeu. Alors il y a bien sûr ces raisons commerciales, il y a des raisons également, je dirais, militaires ou bien d'hégémonie. Chaque pays européen voulant étendre sa domination sur un maximum de territoires pour pouvoir concurrencer le voisin. Il y a aussi des raisons, je dirais, culturelles. Il y a un esprit de curiosité. Nous sommes dans l'époque de la Renaissance, de l'humanisme. Et en Europe, on a envie de savoir ce qui se passe ailleurs. Alors, on a entendu parler du royaume du roi Jean, on a entendu des tas de récits et on aimerait bien les vérifier. On a aussi envie de connaître les contours de la Terre. c'est-à-dire la Terre est ronde, paraît-il, mais ce n'est encore qu'une hypothèse, essayons de le vérifier. Et puis il y a les raisons religieuses, c'est ce qui nous intéresse ici avec François. La grande question, c'est de savoir s'il y a des hommes ailleurs. Et si ces hommes-là ont véritablement une âme. Alors, la question est de taille, puisqu'on sait que lorsque les Espagnols, par exemple, vont aller en Amérique, ils vont découvrir des habitants, dont des Amérindiens, qui vont d'ailleurs appeler les Indiens. Et la question, c'est de savoir si on peut les utiliser comme esclaves ou non. Alors, les uns disent, oui, bien sûr qu'on peut les prendre comme esclaves, puisqu'ils n'ont pas d'âme, donc ce sont des animaux. Mais d'autres prétendent qu'ils ont une âme. Mais alors, s'ils ont une âme, il faut donc les sauver. Ils ont droit au salut. Et s'ils ont droit au salut, il faut à tout prix les baptiser, il faut leur annoncer la bonne nouvelle. C'est ce qui anime à ce moment-là François. Alors, le bateau dans lequel il va donc embarquer, à Lisbonne d'ailleurs, est un bateau portugais. Et il a en plus, il faut le savoir, il va être comme... il va avoir le titre de nonce apostolique. Donc, il a droit à tous les égards d'un personnage de haut rang. Et il se trouve qu'il est aussi ami avec le roi du Portugal. Et il s'embarque donc le 7 avril 1541, dans le jour anniversaire de sa naissance, c'est son anniversaire ce jour-là, sur le Santiago avec deux de ses compagnons, avec le nouveau vice-roi, Martin de Souza. Et il n'a pour tout bagage qu'un vêtement chaud, son bréviaire et une petite anthologie de textes d'écrivains sacrés. Rien à voir avec nos voyages actuels, c'est-à-dire il ne s'agit pas de prendre l'avion à 13h38 pour embarquer à la porte D, mais il s'agit de partir pour une véritable aventure, c'est-à-dire que les cartographies sont encore assez, je vais dire, approximatives, et surtout, les techniques de navigation sont aussi un peu rudimentaires, même si elles ont fait beaucoup de progrès. Et ce qui devait arriver, arriva, c'est-à-dire qu'à la zone de contact entre les Alizés du Nord et les Alizés du Sud, il y a une zone qui s'appelle le poteau noir, c'est-à-dire une zone où il n'y a pas de vent. Et notre bateau va se retrouver donc 40 jours sur une mer d'huile, c'est-à-dire sans aucun vent, avec un équipage et également donc des passagers atteints par le scorbut, cette fameuse maladie qui vient du manque de vitamines. La traversée est effroyable, une escale au Brésil quand même, parce que le Brésil est toujours une possession donc portugaise. On remonte par le canal du Mozambique, une escale dans le Mozambique, dans des situations effroyables. Et enfin, on arrive donc à Goa, en Inde, où il va donc commencer sa vie de missionnaire, même s'il avait déjà commencé sur le bateau, puisque refusant la cabine de luxe qu'on lui avait attribuée, il va vivre la vie des matelots et des gens les plus pauvres, soignant les malades et se mettant complètement au service de tout l'équipage. Nous avons suivi François depuis la Navarre où il est né, à Paris, où il étudie, où il se convertit une deuxième fois, je dirais, à Rome, avec ses amis et ses compagnons, maintenant jésuites, puis Lisbonne, et plus d'un an de voyage, un voyage tumultueux, à l'époque des grandes découvertes, depuis Lisbonne, par le Cap de Bonne-Espérance, pour arriver enfin en Inde, à Goa. Notre François ne perd pas son temps. Puisque les sauvages, ou bien les non-européens, ont une âme, il faut donc les convertir, il faut à tout prix les sauver de l'enfer. Et voici que François, fidèle à ses convictions, prêche et essaie de convaincre, en faisant peur certainement avec la théologie qui était la sienne à ce moment-là, pour que les Indiens se convertissent au plus vite. C'est sûr qu'au départ, notre François arrive avec des idées reçues, comme on dit aujourd'hui. Mais il ne va pas tarder à se rendre compte qu'il y a bien des manières de convertir. On pourra dire que François ici va inventer petit à petit, à force d'échecs et de déconvenus, la mission telle que nous l'entendons peut-être aujourd'hui. Alors, première déconvenue grave, c'est à Goa même, au sein des Portugais. Les Portugais qui sont censés être de bons chrétiens, eh bien, ça ne va pas du tout. Les Portugais se comportent comme des gens fort riches qui dédaignent les pauvres, qui dédaignent les populations locales. Et il est très mal à l'aise auprès d'eux, puisqu'il doit prêcher une nouvelle que les habitants donc, ne voient pas en œuvre auprès des autres chrétiens. Alors, il va partir de Goa. Il va partir de Goa parce qu'il s'est fâché avec les Portugais de Goa, bien qu'il soit nonce apostolique, ne l'oublions pas. Il va essayer de former un clergé indigène. Et il va être envoyé en fait un peu plus loin, sur la côte des Paravers, au sud de l'Inde, avec trois clercs. Et parce que lui-même ignore le premier mot du tamoul, évidemment. Et il va aller chez les pêcheurs de perles, qui sont répartis dans une trentaine de villages. Et ils sont misérables, parmi les plus misérables. Ils sont non pas au dernier échelon, mais à l'avant-dernier échelon dans la hiérarchie des castes, juste avant les parias. Et donc François, pendant 2 ans, va sillonner le pays. Et là, il va inventer une méthode d'enseignement religieux qui va lui servir d'ailleurs dans d'autres régions, c'est-à-dire qu'il fait traduire par des indigènes bilingues les vérités essentielles de la foi, les prières également, avec le risque, bien entendu, que le catéchisme soit, comment dire, avec des contresens. Mais bon, c'était quand même difficile à contrôler. Alors lui-même s'entraîne à prononcer tant bien que mal ces traductions. Alors, comme c'est plus facile d'apprendre des chants par cœur que des discours, il va les chanter finalement. Et comme François a toujours du charme et qu'il est très très bon et qu'il se donne beaucoup, eh bien, finalement, il a du succès. Et sa méthode, eh bien, elle marche pas si mal que ça. Donc, il est dans cette région, mais le problème, c'est que la deuxième année, ça se passe très mal parce que cette minorité-là en question va être persécutée et amenée en esclavage. Deux rajas, donc des notables locaux, des seigneurs locaux, si vous voulez, rasent la côte des pêcheurs et bientôt le pays est bien sûr livré à la tuerie. Alors il essaie de, bien sûr d'intervenir, il propose des trêves, il paie des rançons, il libère les prisonniers, mais il n'y a pas moyen de traiter le problème, de régler le problème de façon sérieuse. Et finalement, lui-même devra partir de ce pays, mais il n'oubliera jamais ce pays où il a fait tant de baptêmes, plus de 10 000 en un mois, dit-il. Et du Goa, du Japon, il demande des nouvelles de sa première mission, et il va toujours rester très attaché à ce peuple-là. Et il va être frappé par cette première expérience de mission. De l'Inde, le voilà parti beaucoup plus loin, en Indonésie, du côté des Moluques, et plus exactement dans l'île de Ternate, Ternate ou Ternate. La population est païenne, et les Européens qui sont déjà implantés là, ce sont des commerçants essentiellement, sont en démarche plutôt relâchés, comme on dit. Et là aussi, il va tenter une autre expérience de mission. Et il va faire traduire son catéchisme et il va les chanter. Il va chanter. Et son chant va charmer également les populations qui vont apprendre ces chants et qui vont donc les adopter, et ces chants-là, et qui vont être frappés par le charisme de François. Donc il va passer d'île en île, il va pour l'île du Mort où il passe 3 mois, et c'est là qu'on lui avait déconseillé de partir parce que les autochtones étaient des personnes qui avaient la fâcheuse habitude de couper des têtes et de manger de la chair humaine. Mais ça ne l'a absolument pas découragé, et on raconte que François, parce qu'il ne connaissait pas leur langue, lorsqu'il croise l'un de ces barbares, comme on dit, son seul langage, c'est sourire et embrassé. Alors, il y a de quoi être décontenancé avec des méthodes comme ça. Par conséquent, il va sillonner ces îles-là. Alors, on se demande toujours comment il a fait pour faire tant de kilomètres, d'aller de lieu inconnu en lieu inconnu. Il fallait un sacré culot, je dirais, une sacrée santé aussi, certainement. Et puis, évidemment, une foi infaillible pour aller de l'avant, même si on sait qu'il avait connu des périodes de découragement, parce qu'au fur et à mesure qu'il avance, bien sûr, il se rendait compte parfois qu'il faisait fausse route, que ses méthodes n'étaient pas aussi efficaces. Mais alors, la grande surprise, c'est en décembre 1547, c'est qu'une personne se présente à François. C'est un Japonais et il se prénomme Anjiro. Donc, certainement un samouraï, une quarantaine d'années. Et depuis 5 ans, dit-il, il erre en quête d'un maître spirituel qui puisse rendre la paix à son âme. Alors, il dit qu'il a eu une jeunesse chargée de péchés, d'homicides, et il veut retrouver la paix. Et il a entendu parler, au Japon, de François. C'est là qu'on voit que son rayonnement était gigantesque déjà. Et il n'a eu de cesse de le chercher depuis le Japon, pour enfin le retrouver. Il a franchi donc 3000 milles, donc ce qui fait quand même pratiquement dans les 4500-5000 kilomètres, pour le rechercher. Et il rencontre Anjiro qui veut être chrétien. Alors c'est une rencontre absolument extraordinaire, et Anjiro, vous le devinez, va amener François au Japon, c'est lui qui va lui ouvrir la porte du Japon. Il va aussi lui monter la tête, comme on dirait, parce que Anjiro le persuade que tout le Japon ne demande qu'à être chrétien. La suite dira s'il avait raison ou non. En tout cas, ce que l'on sait, c'est que avec de nouveau un voyage à Goa pour régler certaines affaires, voici François, on va le retrouver la prochaine fois avec son ami Anjiro au Japon. Nous avons laissé François dans l'Indonésie actuelle où il a rencontré un Japonais du nom d'Anjiro qui l'a convaincu de venir dans son pays, cette terre encore inconnue qui s'appelle donc le Japon. Avant d'aller là-bas, le voici à Goa. Il revient donc pour essayer de régler quelques problèmes, et pas des moindres, des deuils, des amis qu'il a perdus, le vice-roi qui a changé, l'évêque vieilli, et puis des isanis qui se sont glissés dans le groupe des pères et des frères. Et François doit même en renvoyer l'un ou l'autre de la compagnie de Jésus. Voici que Anjiro est baptisé par l'évêque, il devient maintenant Paul, et il se prépare donc à aller au Japon. Mais Anjiro, lui-même, bien que japonais, finalement, on ne connaît que le petit coin de Japon où il est né, et la secte bouddhiste à laquelle il appartient. Et donc, Anjiro a présenté à François un Japon un peu idéalisé, un peu de rêve. Mais comme il n'a pas d'autre informateur, bien, il n'a d'autre choix que de le croire. Le voici donc au Japon. Il n'est pas seul. Il y a Anjiro, il y a Jean, il y a Antoine, le père Cosme de Torres, et puis un jeune frère, Juan Fernandez. Alors il s'imagine un roi très puissant, et il a pris la précaution, parce qu'il l'a imaginé un peu comme un François Ier, ou peut-être un Charles Quint, avec une cargaison de cadeaux. Parce qu'il se dit, on ne sait jamais, je vais me présenter à lui en qualité de nonce du pape. Le voici donc d'abord à Kagoshima. Il est donc dans la famille d'Anjiro, il s'initie aux coutumes japonaises, cérémonie du thé, baguette pour les repas. Tout ça, ça se passe très bien. Il est même reçu par le daimyo, un comte local. Et Anjiro traduit le catéchisme apostolique de François. Les autres essaient également d'apprendre le japonais, le frère Fernandez y arrive. Et seulement François, lui, il n'y va pas par le dos de la cuillère et il trouve que les bons bouddhistes n'ont pas des mœurs très catholiques, allait-on dire. Et il ne s'entend pas donc avec eux puisqu'il les affronte Et il va donc aller à Yamaguchi avec le frère Fernandez et Bernard, un japonais. Il est là-bas dans une région, l'une des plus puissantes du Japon. 10 000 maisons, une centaine de temples et de monastères très très riches. Et il se met, sans solliciter la permission de Daimo, à prêcher avec ses deux compagnons. Mais l'échec est total. Aucun succès, personne ne s'intéresse à cette religion qui est présentée ici par François. Et il a donc de cruelles désillusions et il a aussi un autre échec, c'est qu'il s'était imaginé l'empereur du Japon comme quelqu'un de très 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 important. En fait, à cette époque-là en tout cas, ce n'est qu'un roi de théâtre. Il ne sort que de temps en temps, son palais est complètement délabré. Il est très déçu, et parce qu'en plus, ces fameuses universités sont en fait des monastères peuplés, riches, et les pauvres ne sont pas admis. Et le voilà de retour à Yamaguchi. Alors il se dit, bon, je vais essayer un autre système. Plutôt que de me présenter comme un pauvre itinérant, hein, ce que François avait toujours fait, il va vêtir un grand costume d'ambassadeur du pape et les bras chargés de cadeaux. Il se présente devant le daimyo. Il prend donc une horloge qui sonne des heures, deux paires de lunettes, un mousquet à trois canons et même un tonnelet de vin de Porto. Alors là, notre daimyo est ébloui. Il se dit, mais quelle est cette civilisation qui a inventé de choses aussi étranges et aussi avancées. Alors ça l'impressionne et il se dit, si cette civilisation est capable d'inventer des objets aussi modernes, aussi avancés, leur religion doit certainement être également une bonne religion. Il leur donne donc l'autorisation de prêcher et il leur donne également un monastère pour se loger et pour recevoir, un monastère bouddhiste. Ah, cette fois-ci, c'est bon, se dit François. Mais en 10 semaines, pas une seule conversion. Rien. Indifférence totale par rapport à cette religion bizarre où on présente un dieu incarné. Aucun succès. À tel point qu'un jour, un Japonais crache au visage de Fernandez. Et le frère, en guise de réponse, prend calmement son mouchoir de papier, essuie son visage et continue de parler. Et devant cette sérénité, un des plus acharnés adversaires de François se convertit et demande le baptême. Autrement dit, toutes les tactiques, toutes les stratégies, tous les plans pastoraux, comme on veut, élaborés par François, sont voués à l'échec, et c'est au moment où on s'y attend le moins, que les conversions commencent. Et peu à peu, 500 personnes se convertissent. Mais là aussi, encore un échec, une révolution éclate, le daimyo périt dans le meute et il faut partir de cette région. Il retourne à Malacca. Tempête, il se retrouve dans une région qui est inconnue et il arrive peu à peu à se rendre chez un riche marchand, un autre portugais, le Diego Pereira. Et chez lui, il trouve une lettre clandestine provenant de Portugais tombés aux mains de Chinois et qui souffrent dans les geôles de Canton. Et ces Chinois supplient Pereira de se faire nommer ambassadeur du Portugal à Pékin pour leur venir à l'aide. Et c'est là qu'il apprend également, il en avait déjà entendu parler au Japon, qu'il existe dans cet empire, cet immense empire, empire du milieu, la Chine évidemment, qui est le modèle des Japonais. Et il comprend que c'est là qu'il faut aller. C'est là qu'il doit désormais concentrer toute son énergie. Et il n'a donc de cesse de chercher à rentrer au Japon. Seulement, personne ne veut l'y amener. Parce qu'il est absolument interdit de rentrer en Chine. Et toutes les personnes qui essaient, qui aident, des étrangers à rentrer en Chine sont également traqués, arrêtés et emprisonnés. Et Il insiste, il se prépare, il a amassé beaucoup, beaucoup de cadeaux, parce qu'il a compris qu'il fallait commencer par impressionner l'empereur de Chine. François-Xavier a passé donc un an et demi au Japon. Il a fondé une communauté chrétienne, mais il n'a pas eu le succès escompté. On lui a simplement dit que la source de la civilisation japonaise est dans cet immense empire, l'empire du milieu, qui est l'empire de Chine. Et il n'a de cesse que de s'y rendre. C'est très difficile, parce que l'entrée des étrangers est absolument interdite. Tous ceux qui ont essayé, qu'ils soient asiatiques ou européens, ont été arrêtés et sont emprisonnés dans les prisons de Chine. La Chine ne veut pas s'ouvrir. Bien sûr, un ou deux siècles avant, un certain Marco Polo avait profité d'un changement de dynastie pour pouvoir y aller. Mais les étrangers n'ont pas accès. Et pourtant, François veut à tout prix entrer en Chine. Personne n'accepte de l'y amener, craignant bien entendu pour leur vie. Il va trouver des pirates qui vont accepter, moyennant bien sûr de l'argent. Et le voici à présent sur une île, une petite île, juste en face de la Chine. C'est l'île de Shanxian. Nous sommes en novembre. Il a 46 ans. Il est tout à la joie de mettre le pied sur ce continent pour pouvoir évangéliser ce pays dont on lui a dit le plus grand bien. Mais voilà, nous sommes fin novembre et François est pris d'une fièvre. Il est soigné par son ami qui est là, et Antonio il s'appelle, et seulement il rentre assez vite, il est secoué par une très très grosse fièvre et il commence à délirer. Il ne mange plus, il ne boit plus, il est à moitié inconscient, il murmure des mots incompréhensibles, il est tout à la fois dans un délire, je veux dire de maladie, mais aussi un délire mystique. Il n'arrête pas de prier Jésus, il pense à sa famille, il pense à la Navarre. Il est probable que les mots en basque qu'il avait appris à Javier auprès de sa mère et de ses amis lui reviennent. Et le 3 décembre, donc, il va mourir et il va donner son dernier souffle. Immédiatement, la mort de François est connue par ses amis. Et Antonio a la présence d'esprit de mettre le corps soigneusement dans un trou où on va pouvoir le conserver, en attendant un bateau. La réputation de François était telle à travers l'Asie que déjà de son vivant, les personnes pensaient que c'était un saint. Le premier bateau arrive, le corps est transporté à Goa. Et tout au long du voyage, et bien sûr à Goa, une énorme dévotion, des milliers de milliers de personnes s'empressent pour toucher le corps. Il est ramené à Goa, où il est conservé, et où déjà une dévotion extraordinaire est exprimée envers Saint François. Ce corps est toujours à Goa, la cathédrale de Goa, et il est vénéré par des milliers de pèlerins qui s'y rendent chaque jour.
Un grand merci à Michael Ramuspe.
De la Navarre à l'Asie, sur les pas de Saint François Xavier. À la découverte de la dimension universelle.
Xabiereko anai maitea gainko zitaxuz betea pitzotoi gutan zurre fe Ez ahantzer et à tout doux aïten fédéa, eriseri, diendes, diende, esa hansorai, sure diende, pits gutan su, eta fede. Oi sabiereko anai maitea genko zita shuz betea pizzo toi guta sure fedea es amces qual diendea ifernu peco gesur maruma es becigu herrian sar begirasasu esqualarima sinestean dagonasca oi sabiereko anai maitea gianko zita shuz betea pizzo toi guta sure fedea es amces qual diendea.